La Cité Sœur, par Brian Lumley. Ce manuscrit constitue l'annexe A du rapport MY-127/52 du 7 août 1952. Nous habitions Londres, quand vers la fin de la guerre, notre demeure fut détruite par un bombardement. Mes parents y laissèrent la vie. Je fus moi-même hospitalisé pour blessures graves et dû passer 2 années environ allongé sur le dos. C'est pendant cette période de ma jeunesse, j'avais à peine 17 ans, à ma sortie de l'hôpital, que naquit cet enthousiasme qui se transforma plus tard en un appétit insatiable pour les voyages, l'aventure et la découverte des vestiges des premiers âges de la Terre. Aventurier de nature, je m'étais senti tellement emprisonné au cours de ces 2 longues années qu'à la première occasion, je pris ma revanche sur le temps perdu et donnai libre cours à mes aspirations. Ce n'est pas que ces longs et pénibles mois furent totalement dépourvus de joie. Dès que ma santé le permettait, je me précipitais entre 2 opérations à la bibliothèque de l'hôpital. Tout d'abord pour oublier mon affliction, puis, en fin de compte, pour me laisser emporter dans un de ces mondes de merveilles des fabuleuses mille et une nuits. En plus de l'envoûtement intense qu'il me procurait, ce livre m'aidait à oublier les rumeurs qui circulaient à mon sujet dans les salles de l'hôpital. J'étais différent. Les docteurs avaient soi-disant trouvé quelque chose d'anormal dans ma constitution physique. On chuchotait de bouche à oreille que ma peau possédait d'étranges particularités et qu'un cartilage osseux se développait peu à peu à la base de ma colonne vertébrale. On s'étonnait aussi de ce que mes doigts et mes orteils puissent légèrement être palmés. Comme de plus je n'avais pas le moindre cheveu ou poil sur le corps, je devins rapidement l'objet de nombreux regards détournés. Ajouté à mon nom, Robert Krug, ces éléments n'augmentaient en rien ma popularité à l'hôpital. En fait, à cette époque où Hitler larguait encore à l'occasion des bombes sur Londres, un nom de famille comme Krug, avec ses implications d'ascendance germanique, constituait un obstacle bien plus grand encore que toutes mes autres caractéristiques réunies. La fin de la guerre me trouva riche. J'étais le seul héritier de la fortune de mon père et n'avais pas encore 20 ans. Si j'avais abandonné loin derrière moi les jeans, les ghouls et les effrites de Scott, c'était cependant pour retourner au même type de sensations ressenties dans les mille et une nuits par la lecture des fouilles des sites sumériens de Lloyd. C'est ce livre qui fut le principal responsable de la fascination que j'éprouvais dès lors pour les mots magiques de cité perdue. Au cours des mois suivants, à dire vrai tout au long des années formatives qui me restaient, l'ouvrage de Lloyd resta pour moi un événement marquant. Un nombre considérable de volumes de la même veine lui succédèrent. Je me plongeais avec avidité dans le Ninive et Babylone de Layard, ainsi que dans les premières aventures perses et la Susiane et la Babylonie. Je m'étendis longuement sur des œuvres telles que Naissance et progrès de la Syriologie de Budge, sans parler des voyages en Syrie et en Terre Sainte de Burckhardt. Les contrées légendaires de Mésopotamie n'étaient pas seules à me captiver. Les cités imaginaires de Shangri-La et Ephiroth prenaient place à côté des réalités de Mycène, Knossos, Palmyre et Thèbes. Mon enthousiasme ne connut plus de bornes quand mes lectures m'amenaient à Atlantide et à Chichen Itza. Jamais je ne me suis soucié de séparer réalité et fiction. Dans mes rêves, j'aspirais tout autant à connaître le palais de Minos en Crète que la Cadate inconnue au désert de glace. La lecture de plusieurs documents sur l'expédition africaine de Sir Amery Wendy Smith, à la recherche de Garn, la cité morte, me confirmèrent que certains mythes et légendes ne sont pas fort éloignés de la réalité historique. Si une personnalité aussi respectable que cet éminent archéologue avait mis sur pied une telle expédition pour partir à la recherche de cette ville de la jungle considérée pour la plupart des autorités sérieuses comme purement mythologique, son échec ne lui ôtait pas le mérite d'avoir essayé. Alors que d'autres avaient ridiculisé ce personnage rustre, cet explorateur fou qui était revenu seul des jungles du continent noir, moi par contre j'étais plutôt tendance à adopter voire surpasser ces idées saugrenues. C'est ainsi que l'on considérait ces théories. J'examinais une fois de plus les preuves en faveur de Shiria et de Garn. Je fouillais de plus en plus profondément les vestiges fragmentaires des cités légendaires et des contrées aux noms si incroyables que Ralliet, Ephiroth, Mnar et Hyperborea. Au cours des ans, je retrouvais une parfaite santé physique, et l'adolescent fasciné devint un homme entièrement voué à sa passion. Je n'ai jamais su quelle force me poussait à explorer les passages obscurs de l'histoire, réels comme imaginaires. Je savais seulement qu'il y avait quelque chose de fascinant pour moi à redécouvrir ces anciens mondes de rêves et de légendes. Avant d'entreprendre les lointaines expéditions qui allaient m'occuper à différentes reprises pendant 4 années, j'achetais une maison à Marsk, à la limite même des marais du Yorkshire. C'était la région de mon enfance. J'avais toujours ressenti une forte affinité pour ces régions sinistres et marécageuses. Une affinité difficile à définir. C'est-à-dire que je m'y sentais plus près de chez moi, et infiniment plus proche de ce passé qui me harcelait. Chaque départ était un véritable déchirement, et pourtant, je ne pouvais résister à cette attirance inexplicable des lieux lointains et des noms étranges d'outre-mer. Je visitais pour commencer les pays proches, ignorant les contrées de mes rêves, mais bien déterminé à ce que plus tard. L'Égypte aux mille mystères, la pyramide en escalier à Redan de Djoser à Saqqara, le chef-d'œuvre d'Imhotep, les antiques mastabas, les tombes où dorment les rois depuis des siècles, la pyramide de Snéfrou à Meïdoum, ainsi que celle de Khéphren et de Khéops à Gizeh, les momies, les divinités souveraines. Malgré toutes ces merveilles, l'Égypte ne put me retenir longtemps. Ma peau ne supportait pas la chaleur et le sable. C'était rapidement tanné et devint rugueuse en une nuit. La Crète, nymphe de la Méditerranée d'Azur, Thésée et le Minotaure, le palais de Minos à Knossos, quoi de plus merveilleux? Hélas, ce que je cherchais devait être ailleurs. Salamine et Chypre, et leurs nombreux vestiges des civilisations passées, ne me retinrent chacune qu'un mois à peine. C'est cependant à Chypre que je découvris une nouvelle aptitude physique, mes étranges capacités sous l'eau. À Famagust, je me liais d'amitié avec un groupe de plongeurs sous-marins. Ils plongeaient tous les jours à la recherche d'amphores et d'autres objets du passé, au large des ruines de Salonique, sur la côte sud-est. Je pouvais rester sous l'eau 3 fois plus longtemps que le meilleur d'entre eux et nager plus loin sans l'aide de palmes ni de bouteilles d'oxygène. Au début, cette singularité provoqua leur étonnement. Après quelques jours cependant, je remarquai qu'ils évitaient tout contact avec moi. Ils ne s'inquiétaient pas de l'absence complète de système pileux sur mon corps, ni des membranes qui semblaient avoir allongé entre mes orteils et mes doigts. Mais ils se méfiaient de la protubérance qui apparaissait à l'arrière, au bas de mon costume de bain, et n'acceptaient surtout pas la facilité avec laquelle je conversais avec eux dans leur propre langue, sans avoir jamais étudié le grec de ma vie. Il était temps de reprendre la route. Mes pérégrinations m'emmenèrent partout à travers le monde. Je devins une autorité en matière de civilisation morte. Ma seule joie dans la vie. C'est alors que, à Pétrie, j'entendis parler pour la première fois de la cité sans nom. Tout au fond du désert d'Arabie repose la cité sans nom. Elle n'est plus que ruine, et le sable, au cours des millénaires, a presque recouvert ses murs. C'est ici que rêva le poète fou, Abdul Al-Azred, la nuit où il chanta cet inexplicable couplet. Ce qui gît dans l'éternité ne connaît pas la mort. D'étranges éons viendront, et même la mort mourra alors. Mes guides arabes pensèrent que j'étais fou. Moi aussi, lorsque, ignorant leur avertissement, je m'obstinais néanmoins à chercher la cité diabolique. Les pieds ailés de leur chameau les emportèrent dans une course folle, car ils venaient de remarquer ma peau squameuse et d'autres détails qui les rendaient mal à l'aise en ma présence. Tout comme moi, du reste, ils étaient désemparés devant la facilité avec laquelle je parlais leur langage. Qu'ai-je vu et fait à Karachair? Inutile de le relater. Il suffit de dire que j'y ai appris des choses qui se sont emparées de mon subconscient, des choses qui me poussèrent à voyager plus loin encore, à la recherche de Sarnath, la maudite, dans ce qui fut jadis le pays de Mnar. Aucun être humain ne connaît l'emplacement de Sarnath, et c'est mieux ainsi. Vous comprendrez donc que je passe sous silence mes expéditions consacrées à la recherche de cette cité et les difficultés auxquelles je me heurtais à chaque étape de ma longue route. Enfin, je finis par découvrir la cité engloutie dans les marais, ainsi que les ruines d'Ib toutes proches. Ce furent autant de maillons essentiels ajoutés à la chaîne toujours plus longue qui comblait lentement le fossé entre ce monde et mon but ultime. Quant à moi, je ne savais que penser. Désorienté, j'ignorais le lieu ou la nature de cette destination. Pendant 3 longues semaines, j'explorais les rives vaseuses du lac paisible qui recouvre Sarnath. À la fin, n'y tenant plus, poussé par une force irrésistible, J'eus une nouvelle fois recours à mes curieuses capacités aquatiques et me mis à fouiller le fond de cet hideux marais. Je m'endormis ce soir-là, serrant dans les bras une petite figurine verte que j'avais arrachée aux ruines sous-marines. Je vis mon père et ma mère en rêve, confusément toutefois, dans une sorte de brouillard. Ils m'appelaient. Toute la journée suivante, je la passai dans les ruines centenaires d'Ib. Au moment de partir, je découvris une pierre gravée qui me donna ma première preuve tangible. Le plus incroyable était que je pouvais lire les caractères inscrits sur ce vieux pilier altéré par les siècles. L'écriture cunéiforme était plus ancienne encore que les inscriptions des colonnes brisées de Geff. La pierre érodée s'était parée des ravages du temps. Pourtant, par miracle, je comprenais. Il n'était pas question du mode de vie des anciens habitants d'Ib ou de ceux de Sarnath, morts il y a si longtemps. La pierre racontait seulement la destruction des êtres d'Ib par les hommes de Sarnath et du sort réservé par la suite à Sarnath. C'était au dieu d'Ib que cette malheureuse cité devait son destin. Malheureusement, pas la moindre indication n'était fournie sur les dieux eux-mêmes. Je savais seulement que la lecture de cette pierre ainsi que ma présence à Ib avait réveillé des souvenirs enfouis très profondément en moi. Qui sait, peut-être même des souvenirs ancestraux. Je fus une fois de plus la proie de ce sentiment que je ressentais si fortement dans les marais du Yorkshire. Je me sentais près de chez moi. Puis, comme j'écartais d'un pied paresseux les joncs à la base de la colonne, de nouvelles inscriptions ciselées apparurent. Une fois le limon enlevé, je poursuivis ma lecture. Il n'y avait que quelques lignes, pourtant, elles me donnaient la clé. Ib n'est plus, mais ses dieux vivent encore. À l'autre bout du monde, la cité sœur se cache sous terre, dans les régions barbares de la Zimérie. C'est là que vit le peuple, c'est là que les dieux seront toujours adorés, même jusqu'à la venue du Cthulhu. De nombreux mois plus tard, je trouvai enfin au Caire un homme versé dans les connaissances anciennes, une autorité en matière d'antiquité maudite, de contrées préhistoriques et de légendes. Ce sage homme n'avait jamais entendu parler de la Zimérie, mais croyait, par contre, savoir qu'une contrée avait jadis porté un nom fort semblable. « Et où se trouvait cette Zimérie ? » demandai-je. « Malheureusement, me répondit le savant en consultant une carte, la plus grande partie de la Zimérie est aujourd'hui engloutie sous la mer. Jadis, elle se situait entre Vanaheim et Nemedi, dans l'Hyperborée antique. Vous avez bien dit que la plus grande partie est submergée. Et qu'en est-il de la région qui se trouve au-dessus du niveau de la mer ? Peut-être l'anxiété qui perçait dans ma voix provoqua-t-elle le regard curieux qu'il me lança. Peut-être était-ce à nouveau simplement dû à mon étrange aspect. Le soleil implacable des pays du sud avait encore durci davantage ma peau imberbe et je ne pouvais plus dissimuler les puissantes membranes qui reliaient mes doigts. « Pourquoi tenez-vous tant à le savoir ? » demanda-t-il. « Que cherchez-vous ? » « Mon pays, » répondis-je d'instinct, sans savoir ce qui m'avait poussé à le dire. « Oui, » reprit-il en me scrutant de près. « C'est bien possible. Vous êtes anglais, n'est-ce pas ? Puis-je vous demander de quelle région vous venez ?»« Du nord-est, » dis-je, pensant subitement à mes marécages. « Pourquoi cette question ?»« Mon pauvre ami, vous avez cherché en vain, » expliqua-t-il en souriant. « Zimérie, ou ce qu'il en reste, enveloppe toute cette région du nord-est de l'Angleterre, votre pays. » Ironie du sort. Pour trouver votre pays, vous l'avez quitté. Le destin me dévoila cette nuit-là une carte que je ne pouvais négliger. Dans le hall d'entrée de mon hôtel, une table était affectée aux lectures habituelles des résidents anglais. Un large éventail de romans, livres de poche, revues et journaux, allant du Reader's Digest à The News of the World, y était présenté. Souhaitant passer quelques heures agréables dans une fraîcheur toute relative, je m'assis, bercé par le doux ronronnement d'un ventilateur, un verre d'eau glacée à portée de la main et me mis à feuilleter d'un doigt nonchalant un des journaux. Soudain, au détour d'une page, une photo et un article retinrent mon attention et après un examen attentif, me déterminèrent à prendre un billet pour le prochain vol à destination de Londres. La photo était de mauvaise qualité, certes, mais assez claire cependant pour que je puisse reconnaître une petite figurine verte. La réplique exacte de celle que j'avais trouvée dans les ruines de Sarnath au fond du paisible marais. Pour autant que je m'en souvienne, l'article était rédigé comme suit. Monsieur Samuel Davis, 17 Eddington Crescent, Radcar, a trouvé ce merveilleux vestige du passé, voire photo ci-dessus, dans un cours d'eau dont la seule source connue se situe dans la paroi de la falaise de Sarby-on-the-Moors. Monsieur Davis a fait don de la statuette au musée de Radcar. Elle y est actuellement étudiée par le conservateur, le professeur Gordon Walmsley de Goole. Jusqu'à présent, le professeur Walmsley n'a pu apporter aucun éclaircissement sur l'origine de cette étrange œuvre d'art, apparemment très ancienne. Le test Wendy Smith, méthode scientifique permettant de déterminer l'âge des fragments archéologiques, indique toutefois qu'elle aurait plus de 10 000 ans d'âge. La figurine verte semble n'avoir aucun rapport avec les civilisations mieux connues de l'ancienne Angleterre et passe pour une découverte d'une importance rare. Les experts géologues sont malheureusement unanimes. Ils affirment que ce cours d'eau est totalement infranchissable à l'endroit où il jaillit les falaises de Sarby. Le jour suivant, je m'endormis une heure peut-être dans l'avion et vis une seconde fois mes parents en songe. Comme la première fois, ils m'apparurent dans une sorte de brume moitée. Mais leurs appels étaient plus pressants. Les vapeurs denses qui les entouraient laissaient entrevoir d'étranges silhouettes, courbées en signe d'obéissance, semblait-il, tandis qu'une mélopée ironiquement familière s'élevait de gorges cachées et sans nom. J'avais envoyé du Caire un télégramme à ma gouvernante, l'informant de mon retour. Lorsque j'arrivais à Marx, quelqu'un m'attendait. Un certain monsieur Harvey se présenta aussitôt à moi. Il appartenait à la compagnie Johnson & Harvey et me tendit une grande enveloppe cachetée. Elle m'était adressée de la main de mon père. Monsieur Harvey m'expliqua qu'il avait reçu pour instruction de me remettre cette enveloppe le jour de mes 21 ans. J'étais malheureusement à l'étranger à cette époque, il y avait déjà presque un an de cela. La firme était alors restée en contact avec ma femme de ménage, afin que, dès mon retour, l'accord conclu bientôt 7 années auparavant entre mon père et la compagnie de Monsieur Harvey pût être réalisé. Monsieur Harvey prit congé. Je remerciai la gouvernante et décachetai le pli. Il renfermait un manuscrit rédigé dans un caractère que je n'avais jamais vu au cours de mes études. C'était exactement le même que celui gravé sur ce vieux pilier centenaire d'Ib. Mon instinct me disait que ces lignes avaient été tracées de la main de mon père. Et bien sûr, je pouvais les lire aussi facilement que de l'anglais. Tant par la diversité que par l'ampleur de son contenu, le texte n'était plus du manuscrit que de la lettre. Je n'ai d'ailleurs pas l'intention de le reproduire dans son intégralité. Cela me demanderait trop de temps. De plus, l'allure à laquelle se déroule le premier changement ne me le permettrait plus. Je ne résumerai donc que les principaux points qui retinrent mon attention. J'abordai le premier paragraphe avec incrédulité. Et dès les premières pages, une profonde stupeur m'envahit pour faire aussitôt place à une joie sauvage devant les fantastiques secrets dévoilés par les éternels hiéroglyphes d'Ib. Mes parents n'étaient pas morts. Ils étaient tout simplement rentrés à la maison. Ce jour-là, il y aura bientôt 7 ans, alors que je revenais chez moi, quittant une école réduite en cendres par le bombardement, notre maison de Londres avait été volontairement sabotée par mon père. Il avait placé une puissante charge d'explosifs et l'avait amorcée pour qu'elle explose au retentissement de la première sirène de raid aérien. Mes parents s'en étaient alors retournés, à l'insu de tous, dans leur marécage. Je réalise à présent qu'ils n'avaient pas prévu mon retour ce jour-là, puisque j'étais pensionnaire. Mais l'explosion avait libéré les élèves. Maintenant encore, ils ne doivent pas toujours se douter que j'étais arrivé chez nous à l'instant précis où les radars de défense des services militaires anglais avaient repéré les points ennemis dans le ciel. Le plan de mes parents avait réussi. Aux yeux de tous, ils avaient trouvé la mort dans la catastrophe. Pourtant, il avait presque mis fin à ma vie. Quand je pense que moi aussi je les avais crus morts depuis ce jour. Mais pourquoi avoir eu recours à de tels extrêmes ? Quel secret fallait-il à tout prix cacher aux autres hommes ? Où vivaient mes parents à l'heure actuelle ? Je poursuivis ma lecture. Peu à peu, tout fut dévoilé. Mes parents et moi n'étions pas anglais de naissance. Nous avions quitté notre pays natal pour le Yorkshire lorsque j'avais à peine quelques semaines. Nous venions d'un pays très proche et paradoxalement fort éloigné. La lettre expliquait ensuite que tous les enfants de notre race sont conduits ici en bas âge parce que l'atmosphère de notre patrie ne convient pas à la santé des jeunes êtres. La différence dans mon cas est que ma mère a été incapable de se séparer de moi. C'est là tout l'atroce de la situation. Alors que les enfants de notre race doivent grandir loin de leur pays, les adultes ne peuvent quitter que rarement leur milieu ambiant. Cette restriction est principalement due à leur apparence physique au cours de la plus longue période de leur vie. Pendant la majeure partie de leur existence, ils ne ressemblent au type humain ni de corps ni d'esprit. En d'autres termes, les enfants doivent être abandonnés sur un seuil de porte à l'entrée d'un orphelinat, dans des églises ou dans tout autre endroit où ils seront recueillis et soignés. Au cours des premières années, seules d'infimes différences se manifestent entre ma race et celle des hommes. En lisant, je me remémorais les contes merveilleux que j'aimais tant jadis, où les ghouls, les fées et autres créatures fabuleuses abandonnaient leurs petits aux hommes pour qu'ils les élèvent, et volaient à leur tour des enfants pour les éduquer à leur image. Était-ce là ma destinée? Allais-je devenir vampire? Je me replongeais dans ma lecture. J'appris ainsi que les êtres de ma race ne peuvent quitter leur pays natal que deux fois dans leur vie. La première, peu après leur naissance, comme je l'ai déjà expliqué. Ils sont conduits parmi les hommes par nécessité et y sont abandonnés jusqu'à leurs 21 ans environ. Et une seconde fois plus tard, plus précisément, lorsque des métamorphoses dans leur morphologie les rendent à nouveau aptes à supporter les conditions extérieures. Mes parents venaient d'atteindre ce dernier stade de leur développement lors de ma naissance. Mais l'attachement de ma mère était tellement fort qu'ils délaissèrent leurs devoirs dans notre monde pour me conduire personnellement en Angleterre. Là, ignorant les lois, ils demeurèrent avec moi. Mon père avait emporté certains trésors pour nous assurer une vie aisée jusqu'au jour où il serait contraint de m'abandonner, à l'époque du second changement, lorsque leur séjour prolongé éveillerait les soupçons de l'humanité sur notre existence. Ce jour avait fini par arriver, et ils avaient camouflé leur départ pour notre pays secret en faisant sauter notre maison de Londres, donnant ainsi à croire aux autorités et à moi-même, cela a dû briser le cœur de ma mère, qu'ils étaient morts au cours d'un raid aérien allemand. Quelle autre solution avaient-ils? Ils ne voulurent pas risquer de me révéler qui j'étais réellement. Quel effet aurait eu sur moi une telle révélation, moi qui commençais à peine à manifester quelques différences? Il restait l'espoir que je découvre moi-même le secret, ou du moins la majeure partie, ce que je fis. Pour plus de sûreté cependant, mon père laissa cette missive. La lettre racontait aussi comment peu d'enfants abandonnés retrouvent leur chemin de leur pays. Les accidents emportent les uns, les autres perdent la raison. Ce nouvel élément me rappela un article lu de je ne sais quel journal. Il y était question de deux patients du sanatorium d'Oakdean près de Glasgow. Atteints d'une démence si horrible et à l'aspect extérieur si effrayant que personne n'était autorisé à les voir et que même leurs infirmières avaient du mal à les supporter. D'autres encore se faisaient ermites dans des lieux sauvages et inaccessibles. Quant à certains, je tremblais en lisant quel sort affreux leur avait été réservé. C'était pire que tout. Mais il y avait aussi les heureux, ceux qui parvenaient à rentrer au pays. Ils venaient réclamer leurs droits. Tandis que certains d'entre eux étaient guidés dans leur route par des adultes en second séjour parmi les hommes, d'autres trouvaient leur chemin par instinct ou par chance. Aussi horrible que puisse paraître ce plan d'ensemble de notre existence, la lettre n'explique la logique. Mon pays ne pouvait accueillir beaucoup de monde. Dès lors, ces risques de folie dus à nos changements physiques inexplicables, les accidents et ces autres sorts dont j'ai parlé, forment un système de sélection par lequel seuls les plus aptes de corps et d'esprit retournent dans leur pays natal. Je viens de lire une nouvelle fois chaque ligne de cette lettre, et déjà je commence à ressentir un raidissement de mes membres. Le manuscrit de mon père est arrivé juste à temps. Depuis longtemps, j'étais préoccupé par l'accentuation croissante de mes différences. À présent, les membranes de mes mains atteignirent les premières articulations. Quant à ma peau, elle est devenue étonnamment épaisse, rugueuse et ictique. La courte queue à la base de ma colonne vertébrale n'est plus une protubérance, elle est devenue un membre supplémentaire. À la lumière de ce que je viens d'apprendre, ce nouveau membre n'a rien d'anormal. C'est bien au contraire la chose la plus naturelle qui soit parmi les miens. L'absence totale de système pileux sur mon corps a également cessé de m'inquiéter puisque j'ai découvert mon destin. Je suis différent des hommes, c'est exact. Mais n'est-ce pas là le cours normal des choses? Je ne suis pas un homme. Ah, heureuse étoile qui m'a poussé à ouvrir ce journal au cœur. Si je n'avais pas vu cette photo ni lu cet article, je n'aurais sans doute pas réintégré de sitôt ma région marécageuse. Et je tremble à l'idée de ce qui aurait pu m'arriver. Qu'aurais-je fait, une fois modifié par le prochain changement? Aurais-je fui? dissimulé sous des vêtements suffocants vers quelques contrées lointaines pour y mener une vie d'ermite. Peut-être serais-je retourné à Ib ou à la cité sans nom pour y vivre dans leurs ruines solitaires jusqu'à ce que mon aspect me permette à nouveau de vivre parmi les hommes. Et après ça, et après le second changement. Peut-être des modifications morphologiques aussi inexplicables m'auraient-elles rendu fou. Il y aurait eu peut-être un nouveau pensionnaire à Ogdine. Par ailleurs, mon destin aurait pu être pire encore que tout cela. J'aurais pu être forcé de vivre dans les profondeurs, devenir l'un des êtres d'en bas et adorer Dagon et le grand Cthulhu comme d'autres avant moi. Mais non. La clémence du sort, les connaissances accumulées lors de mes lointains séjours et le document de mon père m'ont épargné toutes ces horreurs, ont vécu d'autres créatures de ma race. Je vais retourner à la cité sœur d'Ib, à Lieb, au pays de ma naissance enfoui sous les marécages du Yorkshire. C'est de ce pays que provient la figurine verte qui me ramena à ses rivages. Cette figurine qui est la répétition exacte de celle que j'ai trouvée dans le lac de Sarnat. Je retournerai et serai adoré par ceux dont les frères moururent à Ib il y a des siècles sous la lance des hommes de Sarnat, ceux qui sont si précisément dépeints sur les cylindres rouges de Kadateron, ceux qui chantent sans voix dans les abysses. Je retourne à Lieb. Maintenant encore, j'entends la voix de ma mère. Elle m'appelle, comme elle avait coutume de le faire lorsque, enfant, je parcourais ces mêmes marécages. « Beau, petit Beau, où es-tu ? » demandait la voix. Elle m'appelait souvent Beau, et riait lorsque je lui demandais pourquoi. Mais pourquoi pas ? Beau ne me convenait-il pas ? Robert, Bob, Beau. Quel aveugle ai-je été ? Jamais, pas même vers la fin, je n'ai remarqué que mes parents n'étaient pas tout à fait comme les autres gens. Mes ancêtres n'avaient-ils pas été adorés dans la pierre grise d'Ib avant la venue des hommes, au premier jour de l'évolution de la Terre ? J'aurais dû deviner mon identité le jour où je découvris cette figurine dans la vase. Ses traits étaient comme seront les miens après le premier changement. Sur la base était gravé en caractère d'ancien Dib, caractère que je pouvais lire car il faisait partie de ma langue maternelle, précurseur de toutes les langues, mon propre nom. Bokrug, dieu lézard du peuple Dib et de Lieb, la cité sœur. Note. Monsieur, à ce manuscrit annexe A de mon rapport était jointe une courte lettre d'explication adressée à la CMNE de Newcastle et reproduite comme ci. Robert Krug, Marx, Yorks, le 9 juillet 1952. Au secrétaire et membre de la CMNE, Newcastle on Tyne, messieurs les directeurs de la compagnie minière Nord-Est. C'est au cours d'un voyage à l'étranger que j'ai pris connaissance dans une revue scientifique de vulgarisation de votre projet des marécages du Yorkshire, dont le début des travaux était prévu pour l'été prochain. Je me suis aussitôt décidé à vous écrire. Vous vous proposez de forer très profondément dans les marais afin de provoquer des explosions souterraines et espérer ainsi créer, puis exploiter, des poches de gaz qui figureront à l'actif des ressources naturelles du pays. Je proteste. Il est en effet vraisemblable que cette entreprise envisagée par vos conseillers scientifiques entraînerait la destruction des deux races primitives douées d'intelligence. C'est pour éviter leur destruction que je me sens contraint d'enfreindre leurs lois et de vous dévoiler leur existence ainsi que celle de leurs serviteurs. Si je vous raconte toute mon histoire, vous comprendrez, me semble-t-il, que mes protestations sont fondées. Après la lecture du manuscrit 6 juin, j'ose espérer que vous suspendrez définitivement vos projets d'exploitation. Robert Krug. Rapport de police MY-127/52. Suicide présumé. Monsieur, j'ai à vous faire rapport des faits suivants. Le 20 juillet 1952, vers 4h de l'après-midi, j'étais de service au commissariat de police de Dillam, lorsque trois enfants, déclaration annexée au volet B, vinrent faire la déclaration qui suit au sergent de faction. Ils avaient vu un drôle d'homme escalader la clôture de l'étang du diable, malgré les panneaux d'avertissement, et se jeter dans le courant, puis s'enfoncer dans le flanc du coteau. Accompagné du plus âgé d'entre eux, je me rendis aussitôt sur les lieux de l'événement supposé, à 1 km environ au-delà des marais de Dillam, et me fit montrer l'endroit où ce drôle d'homme avait enjambé la barrière. Plusieurs signes montraient effectivement que quelqu'un était passé récemment par-dessus le grillage. Herbe piétinée, taches d'herbe sur les fils. Je pus sans difficulté escalader moi-même cette clôture, mais fus incapable de constater si les enfants avaient ou non raconté la vérité. Je n'ai rien trouvé autour de l'étang, ni dedans, qui me permette de supposer que quelqu'un s'y était jeté. Rien d'étonnant à cela. À cet endroit, le courant pénètre dans le versant de la colline et l'eau s'engouffre violemment sous terre. Seul un excellent nageur serait capable de se dégager des tourbillons. L'an passé, au mois d'août, trois géologues trouvèrent la mort exactement au même endroit alors qu'ils tentaient une reconnaissance partielle du cours souterrain du fleuve. Je me remis alors à questionner le garçon qui m'avait accompagné. Il me dit qu'il avait vu un second homme à cet endroit avant l'incident. Il s'était réfugié en boitant comme s'il souffrait dans une caverne toute proche. Ceci juste avant que le drôle d'homme, vert et muni d'une queue courte et souple, décrivent-il, ne sortit de la même caverne pour escalader la barrière et se jeter dans l'étang. Lorsque j'inspectais la dite caverne, je trouvais une sorte de dépouille d'animal, ouverte le long des bras et des jambes, et au travers du ventre, à la manière des trophées des chasseurs de gros gibier. Cet objet était soigneusement roulé dans un coin de la caverne et se trouve à présent dans la pièce des objets perdus du commissariat de police de Dillam. À côté de la dépouille, un ensemble complet de vêtements de bonne qualité était plié. Dans la poche intérieure du veston, je trouvais un portefeuille contenant 14 livres, en billets d'une livre et une carte de visite avec l'adresse d'une maison à Marks, 11 Sunderland Crescent. Les vêtements ainsi que le portefeuille se trouvaient également dans la salle des appels perdus. Vers 6h30, je me suis rendu à cette adresse de Marks pour y interroger la femme d'ouvrage, une certaine Madame White. Elle me fit une déclaration, voire annexe C, concernant son employeur partiel, Robert Krug. Madame White m'a également remis deux enveloppes, dont l'une contient le manuscrit joint à ce rapport en annexe A. Madame White avait trouvé cette enveloppe cachetée, accompagnée d'un billet lui demandant de la poster, quand elle se rendit à son travail, l'après-midi du 20, une demi-heure environ avant mon arrivée. En vue de l'enquête que je menais, et eu égard à sa nature, c'est-à-dire une recherche sur l'éventuel suicide de M. Krug, Madame White pensa qu'il valait mieux remettre l'enveloppe entre les mains de la police. De plus, elle ne savait qu'en faire vu que Krug avait oublié de l'adresser. Pensant que l'enveloppe pouvait contenir un billet expliquant son suicide, je l'ai donc acceptée. Quant à l'autre enveloppe, non cachetée celle-là, elle contenait un manuscrit rédigé dans une langue étrangère. Il se trouve à présent dans la salle des objets perdus de Dillam. Au cours des deux semaines qui suivirent ce suicide présumé, je tentais tout ce qui était en mon pouvoir pour retrouver Robert Krug. Je n'ai pu trouver la moindre preuve permettant de croire qu'il est toujours en vie. Ceci, plus le fait que les vêtements trouvés dans la caverne ont été identifiés par Madame White comme étant ceux que portait Krug le soir de sa disparition, m'ont déterminé à penser que mon rapport soit classé dans les dossiers non résolus et que Robert Krug soit porté disparu. Sergent G.T. Miller, à Dillam. 7 août 1952. Note. Monsieur, souhaitez-vous que j'envoie copie du manuscrit en annexe A, comme l'a demandé Krug à Madame White, au secrétaire de la compagnie minière Nord-Est, inspecteur E.L. Lanson, police du comté de Yorkshire, Radcar, Yorks. Cher sergent Miller, suite à votre note du 7 courant, je vous prie de ne plus rien entreprendre au sujet de l'affaire Krug. Suivant votre suggestion, j'ai porté l'homme disparu, suicide présumé. En ce qui concerne son document, cet homme était à mon avis soit un déséquilibré mental, soit un mystificateur monumental, voire un mélange des deux. Sans nier le fait que certains éléments de son histoire sont indiscutables, le total de l'affaire semble cependant être le produit d'un esprit dérangé. Entre-temps, j'attends la suite de votre rapport sur le nouveau cas. Je fais ici allusion au nourrisson trouvé sur un banc d'église à Ely-on-the-Moor, en juin dernier. Comment allez-vous retrouver la mère ?